Alors, on va faire quelques trucs ce soir. Il va y avoir une panel avec quatre gens qui sont invités ce soir. On a Jean-Marc Piot qui est avec Ababor, qui va parler de ce revue. Ça fait plusieurs années que Ababor représente un type de journalisme progressiste investigatif ici au Québec. Alors, Jean-Marc va parler un peu de du travail à Ababor. On va aussi avoir Drew Oyedje, qui est un des fondateurs du Dominion, qui est la revue que le MediaCorp distribue et publie. Il y a aussi un des membres fondateurs du MediaCorp. So, as I was saying, tonight we're launching the Montreal Media Co-op. It's been about a year that we've been kind of laying the groundwork to get it going, and tonight we're going to have a panel discussion to kick things off, and then a bit more of a discussion afterwards. So, as I was saying, we have Jean-Marc Piot, who's with Ababor, which is a progressive investigative magazine here in Quebec that covers some really important issues, and he'll be talking about the work of the magazine. Drew Oyedje, who's one of the founders of the Dominion, which is a magazine the Media Co-op publishes, and also a founding member of the Montreal Media Co-op. We also have Gretchen King, who's the former news collective coordinator at CKUT Radio here in Montreal, McGill's campus community radio station, and also a longtime indie media activist. And she's going to talk a bit about her experience with indie media and community media. And Frank Lopez, who produces Some Media. He's in town promoting his latest film, NCIV, that's going to be screening on Friday. I'm sure he'll give all the details later. I don't have it on me. And Frank's also a member of the Vancouver Media Co-op and has been involved with the Media Co-op and community media and independent video for a long time, so he's going to speak a bit about his experience. Alors, j'ai pas fini les panélistes tantôt en français. Alors, Gretchen King est l'ancienne coordonnatrice des nouvelles à CKUT et aussi une militante de longue date pour IndyMedia. Alors, elle va parler de ses expériences dans ces deux domaines-là. Et Frank Lopez est en visite de Vancouver. Il est membre du co-op de la co-op Média de Vancouver et aussi un cinéaste. Il sort avec son dernier film cette semaine. Ça va être présenté vendredi. Ça s'appelle NCIV. Et il est ici pour parler un peu de comment les choses fonctionnent en Vancouver et un peu des travaux de la co-op Média de Vancouver. Thanks and enjoy the evening.
Donc, merci d'être venu. Je vais parler en anglais, mais bien sûr que je peux prendre des questions puis répondre en français plus tard. So, the rest of what I'm going to say will be in English. This is the Montreal Media Co-op website. Check it out. It's at montreal.mediacoop.ca. And I'm going to talk a little bit about some of the ideas around the Media Co-op in general and how that came about. So just a little bit of background. The Media Co-op started with a newspaper called The Dominion, which had a mandate to publish grassroots coverage across the country in English and in French, although the French part has been severely lacking. But it's part of our mandate nonetheless. So the Dominion published for about... about 4 years, about 3.5 years, when we sort of realized that it wasn't growing fast enough, it wasn't achieving what we wanted to do, and so we decided to sort of rethink the whole thing, and we had sort of a series of I guess retreats where we got together and really just sort of started over in terms of our organizational structure, in terms of how we thought about media. And what we came up with was the Media Co-op. And the Media Co-op is different from a traditional publication in some key ways. The main ones are embodied in two words, which I'm going to try to describe in relation to the Media Co-op really quickly, because I have about 7 minutes, probably more like 4.5 now. So the first one is participatory. So on the Montreal Media Co-op site, it looks like this. Anyone can create an account. So the way you do that is by going to this sign up button here, or this create new account. And once you create an account and log in, you have to the account has to be approved. Unfortunately, that's because there's huge amounts of spam. But once you log in, it looks like this. And once, yeah, so once you're logged in, you can post a blog, a photo, a story, which is any kind of more journalistic style story. If any opinion stuff can go under blog. You can post events, which will show up in this events column here and in the featured events. You can post a news release. So if you're an organization that has a press release that you put out, you can post that to our newswire. You can post video, audio, and so on. And many people do. So I guess that's the first way that we're participatory. Like, most of our content just comes from people posting stuff. And what we'd like to do is sort of start with providing this website where people can post their own grassroots coverage. But we also want to build a culture of participatory media. So one of the things the Montreal Media Co-op is going to be doing is holding workshops to give more people the opportunity and the skills to be confident in creating their own grassroots coverage. I want to talk about a few of the ways that the Media Co-op has been participatory so far. So the first one, real quick, is the participatory budget in 2010. This is ongoing, but basically what we did was we, to the whole membership of the Media Co-op, that's the reader members, the contributor members, and the editor members, we asked them what their priorities were. So we sort of outlined what the budget that we have, and we said, what are your priorities? And then we gave, I think, 10 priorities. And we asked people to rate these priorities in the order of preference, and we asked them to post comments. So you can actually go to the Budget 2010 part of the site and see what people rated, how they rated it, and what their comments were. We did the same thing, it's a very similar process with our 2011 special issue. So we asked people just straight up, what do you want to see us do a special issue on? And what we've done with special issues is we try to bring together some of the best coverage on a particular topic and then publish it with a much larger reach than our normal publications go. So we our most recent special issue had, thank you, was the climate justice issue, which looks like this. We also did a special issue on the G8 and G20, which looks like that. And we published, I think, 15,000 copies of the most recent one and had launch events across Canada, obviously in the different locals, but also in other places. So what we did was we asked people, like, just to pitch ideas for what they want to see a special issue on. So this is the form where people submitted their special issue ideas. I'm trying to remember. There we go. So there's and then on another page we have the different special issue ideas that people had given us, and we asked people to rate and comment. So we actually had quite a bit of participation. I think some of them got like over 87 votes or something like that. So you can see here the climate justice one is the one that we ended up picking. But this is the point of this was to have a participatory process where everybody who's involved in the Media Co-op gets to participate in making these major decisions about what we cover. So it's not just about a couple of editors doing some work and then asking for support to do that work. It's about everybody coming together, bringing their resources together, everybody contributing in the way that they can contribute. Another thing that we're going to do is we're in the middle of setting up is a spokes council. So instead of setting policy by having, you know, just a board of directors or some kind of executive committee that makes these decisions, we're actually going to, for all our major decisions about policy, about how we conduct ourselves, about what our overall mandate is, about what projects we undertake together, we're going to have a process of consultation for not only the whole membership, but also of the membership as collectives. So, for example, each local will have a representative on the spokes council, and all decisions there will be sent back to the locals to be discussed and to get their input. In Montreal, for example, I think we have a proposal on the table. It's not finalized yet, but we're going to have an elected editorial committee. So what gets chosen and what gets featured on the website will be done by people elected by you, the members. I just want to go through a few of the articles that have been published. The second word that I wanted to focus on just briefly is grassroots. And so what we mean by grassroots is, first of all, what I was talking about before is people create their own coverage. So people can, starting with the fact that people can self-represent, people can create news that's completely biased or a little bit biased, or you know, highly professional and journalistic. But the point is to open it up so that people can participate no matter what their skill level is. And obviously, we want to help people get their skill level higher. But a big part of what grassroots coverage is talking to people who are directly affected. So for example, we have some recent coverage of, for example, a rally in support of the family of Freddy Villanueva, which would be a great example of you know, talking to people who are directly affected as opposed to, you know, and so starting with the people who are directly affected and then moving your way up to the, you know, city officials, the NGOs, the, you know, the police chief and all this stuff. But the point is to start with people who are on the ground and experiencing things directly. And our feeling is, first of all, that the corporate media doesn't do this almost at all. And second of all, that it actually provides a much more sort of authentic and realistic take on what's going on. To recap, you can create an account. You can post any stuff. Please do. It's there as a resource for you. Thank you.
Je remercie le club d'avoir invité Ababar. Ababar m'a envoyé devant vous, pas parce que je suis le plus représentatif d'Ababar. Ababar existe depuis à peu près 8 ans. Moi, je suis dans Ababar depuis 3 ans. La moyenne d'âge des gens dans Ababar sont 30-40. Moi, ça fait longtemps que j'ai 40 ans. Alors, Ababar s'est changé beaucoup. Je pense que du groupe original de fondateurs, il en reste 4 individus dans Ababar actuellement. Le reste, ça s'est renouvelé, changé au cours des années. Ababar repose sur le travail du bénévole de chacun, sauf une personne d'Ababar qui est payée, mais disons, payée très modestement. La structure a changé aussi. Au début, c'est une coopérative et maintenant, ce qui ne fonctionnait pas, maintenant, c'est un organisme sans but lucratif. Et qui repose sur un comité de rédaction qui sont tous les membres qui sont élus dans le collectif qu'on appelle le collectif d'Ababar. Et il y a 3 comités qui sont nommés par ce collectif-là. Ouais. Vous pouvez prendre des copies en arrière. J'en montre 2. Vous pouvez même vous abonner si vous trouvez tellement beau, vous pouvez vous abonner immédiatement. Alors, il y a 3 comités nommés par le collectif, un conseil d'administration, un comité de coordination qui s'occupe surtout des questions de finances, un comité d'édition qui s'occupe de la fabrication matérielle de chaque numéro et un comité de diffusion qui essaie de trouver l'endroit où on pourrait le distribuer. À Babar, c'est une gauche plurielle. Dans ça, vous avez des socialistes, des anarchistes, des gens qui mettent plus l'accent sur l'environnement, d'autres sur le féminisme. Vous avez des indépendantistes, puis des moins nationalistes et fédéralistes asymétriques. Alors, c'est vraiment une tendance plurielle. C'est pas une gauche, disons, qui a une ligne politique très, très politique. C'est le collectif qui prend les grandes décisions. Dans chaque numéro, il y a un dossier. Alors, par exemple, j'en ai apporté un qui était sur l'apocalypse, le dernier sur les classes dominantes au Québec. Alors, il y a un dossier. Alors, les décisions, quel dossier qu'on fait, c'est décidé en collectif. Et là, on essaie de trouver quelqu'un qui va s'occuper du dossier avec, des fois, des autres pour l'aider. Et on va discuter avec eux, cette personne-là, quels sont les sujets qu'on doit traiter, quels sont les auteurs possibles, et ainsi de suite. C'est le collectif qui décide, en fait, de chaque numéro. On discute. Il y a toujours un dossier. Il y a un éditorial. Alors, l'éditorial, on discute. Quel est le sujet qu'on va traiter? Comment on devrait le traiter? On nomme quelqu'un qui va faire, qui va l'écrire, le premier jet, avec 2 correcteurs. Et ça, c'est envoyé à tous les membres du collectif qui doivent dire on approuve, on n'approuve pas, on approuve avec changement. Puis là, ils doivent dire qu'est-ce qu'ils veulent changer et comment. Alors, c'est ça qui devient comme le seul texte un peu unanime. Dans chaque numéro, il y a des chroniques sur l'éducation, syndicalisme, travail, et ainsi de suite. Et il y a des secteurs, par exemple, international, culture, ainsi de suite. Ça veut dire que, et dans chaque, on discute de ça, articles qu'on va traiter international. Puis là, on discute qui est-ce qui pourrait faire ça, comment le chercher, qui va les contacter, ainsi de suite. Alors, vraiment, toute l'édition du contenu se fait au niveau du collectif. Comment ça se finance? Les abonnements. On a à peu près 600 abonnés. Et des achats groupés par des syndicats ou de la publicité qui viennent des syndicats. Évidemment, pas tous les syndicats, parce que on est évidemment pro-syndical, mais en même temps critique de certaines choses du syndicalisme. Et évidemment, étant financé, il y en a qui refusent complètement de financer parce qu'ils ne veulent pas avoir mon expérience, que les dirigeants syndicaux sont aussi frileux de la critique que n'importe quel des dirigeants d'entreprises privées. Quoi. Il n'y a pas ça que, quand on dit on est pour ça, mais pas ça, là. Vous faites de la merde, là. Ils sont pas, bon, ils sont pas très, très contents. Alors, c'est quand même, on essaie de garder cet esprit-là, mais faire en sorte que ceux, que, ne pas s'auto-censurer, quoi. Parce qu'on pourrait facilement s'auto-censurer, puis il faudrait vous donner des revues francophones au Québec qui sont partiellement financées par des syndicats et qu'il n'y a jamais une critique du syndicat. Tous ceux qui font sont toujours bons. Il y a un problème, là. Dans la mesure où on veut être des intellectuels critiques, ben là, je veux dire, quand ça ne fait pas notre affaire, on doit le dire. Ben, j'ai trouvé ça intéressant, la coop, parce que ça peut créer des passerelles entre les deux solitudes, quoi. Peut-être pas les faire, je pense pas qu'on va faire disparaître du jour au lendemain, ça fait longtemps que ça existe, mais ça peut créer des passerelles entre les deux solitudes qui habitent Montréal. Et il me semble aussi qu'actuellement, compte tenu un gouvernement conservateur majoritaire, là, c'est un désastre. Hein, c'est un désastre. Hein, je veux dire, moi, j'étais content de ne pas être dans le pays de Bush, de Reagan, puis de toute cette gang-là. C'est encore pire qu'on a avec Mulroney. Alors, on va y goûter les quatre prochaines années. Ça va être très, très dur. On va être obligé de se battre. La victoire du NPD m'apparaît quelque chose de positif, mais il faudra regarder ça de proche parce que s'il veut conserver ce qu'il a comme opposition officielle ou même faire des progrès, il va être devoir régler le problème. C'est, disons, on peut s'entendre sur des perspectives sociales de gauche, si vous voulez, mais comment va-t-il développer vraiment un fédéralisme asymétrique qui répondait à des revendications traditionnelles de la nation québécoise sans brusquer le reste du Canada. C'est un peu et c'est là qu'il peut être. Alors, il faut vraiment aider à ce qu'on arrive à trouver des compromis dans ce sens-là. Et je pense que la coop peut aussi mettre un peu son grain de sel pour essayer de. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire. Tantôt, je peux répondre à des questions en français, en anglais aussi, probablement. Merci.